Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 35 d'Af Lamed He. Bonne écoute et bon limoud.
Afani lo amarti, moi aussi je ne parlais elak shenit kabebekli uniquement dans le cas où le sang a été recueilli dans un ustensile de service. La Gemara demande vehu gufe menayada, et lui-même donc Rabbi Yehuda, d'où sait-il que le sang a été recueilli dans un ustensile de service? La Gemara répond Kohanim Zrizin. Les Kohanim sont zélés, il est évident qu'ils ont recueilli le sang de tous les sacrifices qui ont été offerts ce jour. Cependant, Ve'avdin Hai Umishtaprim, puisqu'ils doivent travailler rapidement, comme nous l'avons dit précédemment, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour offrir ces sacrifices, donc ils devaient travailler rapidement, il pouvait arriver que le sang se répandait pendant qu'il le transportait vers l'autel, et c'est pour cela que Rabbi Yehuda a institué qu'il fallait recueillir à nouveau, donc ramasser du sang qui se trouvait sur le sol pour l'asperger sur l'autel. Ainsi, tous les sacrifices sont devenus valables. En la Gemara demande, Vehalo dam hatamtzit meuravbo. Pourtant, il y a du sang qui s'écoule de l'animal après sa mort, qui est mélangé avec ce sang, et celui-ci n'est pas valable pour l'aspersion. En effet, le sang de l'aspersion est uniquement celui dont dépend la vie de l'animal, donc c'est celui qui gicle avec force après qu'il a été égorgé. Mais une fois que le sang a arrêté de gicler, il s'écoule simplement parce que son cœur a arrêté de battre. Ce sang provient donc des membres de l'animal et n'est pas valable pour l'aspersion du sang. Alors, puisqu'il y a aussi de ce sang qui est répandu sur le sol, comment est-ce qu'il est possible de ramasser le sang pour l'asperger ensuite? La Gemara répond, Rabbi Yehuda l'etame. Rabbi Yehuda suit sa propre opinion, de Amar Dam Hatzamtit Karudam. Le sang qui s'écoule après la mort de l'animal est aussi considéré comme étant du sang, et apparemment donc, il est aussi valable pour l'aspersion. D'Etania, car il est enseigné dans une braïta, Dam Hatzamtit, le sang qui s'écoule après la mort de l'animal, Be'azara, est uniquement sanctionné par un commandement négatif, mais non pas par la peine du retranchement dans le monde futur, comme pour le sang qui gicle après l'abattage de l'animal. Rabbi Yehuda Omer, Bekaret, ce sang est sanctionné même par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous voyons donc que Rabbi Yehuda considère ce sang qui s'écoule après la mort de l'animal comme étant du sang véritable. En la Gemara demande, Behamar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar dit, Modé Rabbi Yehuda l'inyan kapara sheno mechaper. Rabbi Yehuda est pourtant d'accord en ce qui concerne l'expiation, c'est-à-dire l'aspersion du sang, que ce sang n'expie pas les péchés, autrement dit, il n'est pas valable pour l'aspersion. Chez Nehemar, car le pasouk dit, nous lisons selon la note marginale dans Vaikra Yudzaïn concernant le sang qui est interdit à la consommation parce qu'il doit être aspergé sur l'autel. Le pasouk dit, Ki Adam hu banefesh yechaper, car ce sang expie les péchés de l'âme. Ce pasouk peut aussi être interprété de la manière suivante, Dam shehanefesh yotzabo, le sang avec lequel l'âme sort, c'est-à-dire le sang dont dépend la vie de l'animal, karui dam, est considéré comme étant du sang pour l'aspersion, chez en hanefesh otzabo, mais celui avec lequel l'âme ne sort pas, c'est-à-dire celui dont ne dépend pas la vie de l'animal, c'est le sang qui coule après la mort de l'animal, et no karui dam n'est pas considéré comme étant du sang pour l'aspersion. En tout cas, puisque Rabbi Yehuda pense que ce sang n'est pas valable pour l'aspersion, la question revient, comment se fait-il qu'il est possible d'asperger ce sang qui se trouve sur le sol, alors qu'il y a mélangé avec ce sang du sang qui s'est écoulé après la mort des nombreux sacrifices qui ont été offerts ce jour-là. La Gemara répond, et là plutôt, c'est cela la réponse. Rabbi Yehuda l'etame, Rabbi Yehuda suit sa propre opinion d'Amar qui dit, En dam mevatel dam, le sang n'annule pas le sang. C'est-à-dire, comme il est expliqué plus loin d'Af Ainchet, Rabbi Yehuda pense que deux choses d'une même nature ne s'annulent pas. Selon lui, le principe de l'annulation n'existe que lorsqu'il y a deux choses qui ne sont pas du même nature. Nous dirons donc que c'est la majorité qui l'emporte. Mais lorsqu'il y a deux aliments, ou par exemple deux types de sang, donc qui sont de même nature, qui se sont mélangés, même la minorité est considérée comme étant existante. Par conséquent, il est possible d'asperger ce sang qui a été ramassé sur le sol, bien que se trouve mélangé à ce sang, du sang qui n'est pas valable pour l'aspersion. En la braïta continue, Amar lahem Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit au Chachamim, les divrechem, selon vous, qui ne sont pas d'accord avec moi, vous tenez donc qu'il n'y a pas d'aspersion après la fin du service. Lama pokekim haazara, Pourquoi est-ce que tous les orifices d'évacuation étaient bouchés la veille du Pessah lorsque les sacrifices étaient offerts? Selon mon opinion, cela se comprend bien, car il fallait recueillir tout le sang pour pouvoir faire cette aspersion à la fin du service. Mais selon vous, pourquoi fallait-il boucher tous les orifices d'évacuation? Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, « Shevachu le bnei Aharon, c'est un éloge pour les fils de Aaron, les Kohanim, qui effectuaient le service, « Shehalchu adar kuvotem bedam, de marcher dans la cour du sanctuaire alors que le sang leur arrive jusqu'aux chevilles. » Cela montre que beaucoup de sacrifices ont été offerts aujourd'hui. Et c'est pour cela donc que tous les orifices d'évacuation étaient bouchés ce jour d'Erev Pessah lorsque tous ces sacrifices étaient offerts. La Gemara demande « Vehadam have chatitza » Pourtant, le sang fait écran entre le corps du Kohen et le sol de la cour du sanctuaire, et donc le service serait invalidé. Comment donc leur est-il permis d'effectuer le service de cette manière? La Gemara répond « Lachou, ce sang est encore liquide, velo have chatitza » Et ainsi, il ne fait pas écran entre le corps du Kohen et le sol de la cour du sanctuaire. Ils peuvent donc quand même effectuer le service de cette manière. Nous lisons selon la note marginale de Tania, car il est enseigné dans une braïta. Hadam, le sang, vehadio et l'encre, vehadvash et le miel, vehachelev et la graisse, qui se trouve sur le corps d'un homme ou sur un habit qui doivent se purifier dans un bain rituel, yeveshim, s'ils sont secs et ne permettent pas le passage de l'eau, chotzetzin, ils font écran entre le corps de l'homme et l'eau où ils doivent se tremper pour se purifier. Et donc, ils ne peuvent pas se purifier de cette manière. Ils doivent les enlever. Lachin, mais s'ils sont liquides, en chotzitzin, ils ne font pas écran entre le corps de l'homme et l'eau. Ils peuvent donc se tremper dans le bain rituel pour se purifier de cette manière. Nous voyons donc que le sang liquide ne fait pas écran entre le corps de l'homme et ce avec quoi il doit être en contact. La Gemara demande, Veha kamit vase manayhu, pourtant leurs habits se salissent avec ce sang. Et nous lisons selon la note marginale, Vetania, il est enseigné dans une braïta, Hayub gadav metushtashim ve'avad, si les habits du Kohen étaient sales et il a effectué le service, avodato psula, son service qu'il a effectué est invalidé. Nous voyons donc qu'il leur est impossible d'effectuer le service de cette manière si leurs habits se salissent. Vechi tema de madlulehu, et si tu veux me répondre qu'ils soulevaient le pan de leurs habits et effectuer le service de cette manière, et donc ses habits ne se salissaient pas. Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikravav concernant les habits du Kohen. Mido, le pasouk dit qu'il portera une tunique à sa mesure. Kemidato, ce terme Mido veut dire à sa mesure, shelo yersar velo yotir. Il ne faut pas qu'il manque à la mesure de l'habit, il ne faut pas non plus qu'il y en ait en trop. Donc l'habit était juste à la mesure du Kohen et arrivait donc jusqu'à leurs pieds, et s'ils avaient du sang jusqu'à leurs chevilles, les habits se salissaient. La Gemara répond, « Beholachat evarim lakevesh » Ils marchaient dans le sang lorsqu'ils portaient les membres des sacrifices, donc les graisses, à la rampe d'accès à l'autel, « de lavavodahi » qui n'est pas considéré comme étant un acte de service, et cela ne faisait rien si leurs habits se salissaient. La Gemara demande, « Velo » et non, est-ce que le fait de transporter les membres du sacrifice vers la rampe d'accès à l'autel n'est pas considéré comme étant un acte de service? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Aleph, Vehikriv Hakohen et Hakol, et le Kohen approchera le tout vers l'autel. Zu Holachat Evarim Lakevesh, ce passage parle du transport des membres du sacrifice vers la rampe d'accès à l'autel, et donc nous voyons que cette action est un acte de service. S'ils le faisaient alors que leurs habits étaient sales, le service est invalidé. L'Agman répond, « Et là plutôt, Beolachat etim lemaracha, ils marchaient dans le sang lorsqu'ils portaient du bois pour alimenter le foyer qui se trouvait sur l'autel, des lavavodai, ceci n'était pas considéré comme un acte de service, et ils pouvaient le faire même si leurs habits se salissaient. » L'Agman demande, « Velavoda hechiazle, et comment marchaient-ils lorsqu'ils devaient effectuer le service, comme transporter le sang pour l'aspersion ou bien porter les membres, les graisses du sacrifice vers la rampe d'accès à l'autel? » La Gemara répond, « Azle aïtstebe, il marchait sur des espèces de dalles surélevées qui faisaient partie du sol, mais ces dalles étaient plus hautes que le niveau du sang, ainsi ils ne salissaient pas leurs habits. » Nouvelle Mishnah, jusqu'à la fin du chapitre, nous parlerons à nouveau des lois concernant les intentions invalidantes. Alors la Mishnah dit, « Hashochet et azevar, celui qui égorge donc, qui sacrifie un sacrifice, le echol davar shendar kol echol, avec l'intention de manger ou que soit mangé, une partie qui n'est pas destinée à être mangée, ou les haktir d'avar chez endarko l'haktir, et d'offrir sur l'autel une partie du sacrifice qui n'est pas destinée à l'être, et ce, en dehors du moment ou du lieu prévu par la Torah, kasher, le sacrifice est valable, puisque finalement, son intention ne concernait pas quelque chose de mangeable ou qui est destiné à être offert sur l'autel. Rabbi Eliezer possède, tandis que Rabbi Eliezer déclare ce sacrifice invalidé. L'Echol d'Avar Shedarko l'Echol, s'il a eu l'intention de manger ou que soit mangé une partie du sacrifice destiné à être mangé, ou l'Aktir d'Avar Shedarko l'Aktir, et d'offrir sur l'autel une partie qui est destinée à être offerte sur l'autel, et ce, en dehors du moment ou du lieu prévu par la Torah pour le faire, Pachot Mekazaït, mais son intention était concernant une partie du sacrifice inférieure au volume d'une olive, Kacher, le sacrifice est valable, puisque finalement, il n'y a pas la quantité requise pour que cette intention invalide le sacrifice. Les Echol Kechatizaït, s'il a l'intention que soit mangé un morceau de la taille d'une demi-olive, ou les Aktir Kechatizaït, et d'offrir sur l'autel une partie du sacrifice de la taille d'une demi-olive, et ce, en dehors du moment ou du lieu prévu par la Torah pour le faire, Kacher, le sacrifice est quand même valable. Et cela, car chez En Achila Vaktara Mitztarfim, car des intentions concernant la consommation par l'homme et l'offrande sur l'autel ne s'associent pas pour compléter la quantité requise pour que l'intention invalide le sacrifice. Hashochet et Azevach, celui qui sachifie un sacrifice, l'Echol Kezait Minaor, avec l'intention de manger un morceau de la taille d'une olive, de la peau de l'animal, ou Minarotev, ou du jus de la cuisson de l'animal, ou Minakipa, ou des petits morceaux de viande et d'épices qui s'amassent au fond de la casserole, et donc, en général, qui ne se mangent pas, ou min ha'alal, ou bien du tendon du cou, ou min ha'atzamot, ou bien des os, ou min ha'gidim, ou bien des nerfs, ou min ha'karnaim, ou bien des cornes, ou min ha'tlafaim, ou bien des sabots, chutz lizmano v'chutz limkomo, et ce, en dehors du moment ou en dehors du lieu prévu par la Torah pour le faire, kasher, le sacrifice est valable, puisque finalement, il n'a pas une intention concernant quelque chose de mangeable. Ve'en chayavin alehen mishum pigul venotar vetame. Et on ne se rend pas coupable de l'interdiction de pigul si le sacrifice est devenu pigul par une intention invalidante. Une personne qui mange de ces parties que nous avons citées plus haut de ce sacrifice ne s'est pas rendu coupable de l'interdiction de manger du pigoul, et ni non plus de l'interdiction de notar de manger le sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire. Donc si une personne mange de ces parties du sacrifice que nous avons cité plus haut après le moment prévu par la Torah pour le faire, il n'a pas transgressé cette interdiction, et ni de l'interdiction du sacrifice impur. Donc si une personne mange de ces parties que nous avons cité plus haut d'un sacrifice devenu impur, n'a pas transgressé l'interdiction de consommer du sacrifice impur. Hashochet et Hamukdashin, celui qui sacrifie des sacrifices, ce terme veut dire en général des sacrifices femelles, l'Echol Shalil, avec l'intention de manger du fœtus de cet animal, Oshilia, ou de son placenta, Bachutz, à l'extérieur, donc en dehors du sanctuaire, l'Opigel, le sacrifice n'a pas le statut de Pigoul, autrement dit, il n'est pas invalidé. Car en général, ce ne sont pas des parties qui se mangent. Voir le commentaire du Rambam sur cette Mishnah. Hamolek et Hatorin, celui qui sacrifie des tourterelles. Le Kohen sacrifiait les oiseaux offerts comme sacrifice en plantant son ongle dans la nuque de manière à sectionner le cou. C'est cela donc le terme de Molek qui veut dire sectionner. Donc, le Kohen qui sacrifie des tourterelles, les Echol Betsehen Bachutz, avec l'intention de manger des œufs qui se trouvaient dans ces oiseaux à l'extérieur du sanctuaire, l'opigel, le sacrifice n'a pas le statut de pigoul, autrement dit, il n'est pas invalidé. Et cela car les œufs ne sont pas considérés comme faisant partie du sacrifice. Chalav mukdashin, le lait qui se trouve dans les mamelles des sacrifices femelles ou betsetorin, et les œufs se trouvant dans les tourterelles, En chayavin alehen mishum pigul venotar vetame, celui qui en consomme ne se rend pas coupable ni de l'interdiction de pigul si ces sacrifices ont été invalidés par une intention invalidante, ni de l'interdiction de notar si il consomme donc de ce lait ou de ses œufs après le moment prévu pour la consommation du sacrifice, ni de l'interdiction du sacrifice impur, si ces sacrifices sont devenus impurs, et il a consommé donc de ce lait ou de ses œufs. Et cela parce que, comme nous l'avons dit, le lait se trouvant dans les mamelles, ou bien les œufs des oiseaux, ne sont pas considérés comme faisant partie de la viande du sacrifice, et ils ne sont donc pas concernés par ces interdictions qui ne concernent que la viande du sacrifice. L'Agmara dit « Amar Rabbi Lazar, Pigel Bazevar, s'il a eu une intention invalidante de manger une partie de la viande du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, par conséquent le sacrifice est devenu pigoul, Nitpagel Hashlil, le fœtus qui s'y trouvait, a aussi reçu le statut de pigoul, puisque Rabbi Lazar le considère comme faisant partie du corps du sacrifice. Donc, celui qui en consomme sera aussi condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Par contre, Bashlil, s'il a une intention invalidante de consommer une partie du fœtus de ce sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, l'onit pagel azevar, le sacrifice ne reçoit pas le statut de pigoul, étant donné qu'en général, ce fœtus que l'on trouve dans le corps du sacrifice après qu'il a été sacrifié ne se consomme pas en général. Nous considérons donc qu'il a eu une intention concernant quelque chose, donc une partie du sacrifice qui ne se mange pas. Pigel Baalal, s'il a rendu le sacrifice pigoul en ayant eu l'intention de consommer du nerf du cou d'un oiseau qui a été offert en tant que korban khatat, le nerf du cou, lui, est mangeable, et ce, en dehors du temps prévu par la Torah pour le faire, le sacrifice est donc devenu pigoul. Nit pagla mur'a, même le jabot, qui en général ne se mange pas, a aussi le statut de pigoul. Celui qui en consomme sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Bemur'a, mais s'il a eu l'intention de consommer du jabot de cet oiseau offert en tant que korban khatat en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, puisqu'en général il ne se mange pas, l'onit pagel alal, le nerf du cou de cet oiseau, ni d'ailleurs tout le reste du sacrifice, n'a pas le statut de pigoul. Pigel Baemurim, s'il a rendu le sacrifice pigoul en ayant eu l'intention d'offrir sur l'autel les graisses de ce sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, donc le lendemain, il s'agit ici de taureaux dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire. Par exemple, celui qui est offert par le public lorsqu'il a commis un péché en suivant un édit erroné du tribunal suprême. Le sang de ce taureau est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, mais sa viande ne se mange pas, elle sera brûlée à l'extérieur de la ville de Yerushalayim. Donc elle est interdite à la consommation. Alors là-dessus, Rabbi Lazar dit, s'il a rendu ce sacrifice pigoul en ayant eu l'intention d'offrir ses graisses sur l'autel après le moment prévu par la Torah pour le faire, nit paglu parim, même la viande de ce taureau, qui est interdite en fait à la consommation, est devenu pigoul, celui qui en consomme est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Beparim, mais si il a eu l'intention de consommer ou de brûler la viande de ses taureaux après le moment prévu par la Torah pour le faire, et donc il a eu l'intention de le rendre pigoul, le sacrifice n'est pas devenu pigoul, l'onit paglu emurim, même les graisses ne sont pas devenues pigoul, donc celui qui en consomme n'est pas condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Donc, l'opinion de Rabbi Eliezer est que lorsque le sacrifice est devenu pigoul, même les parties qui sont mangeables difficilement sont devenues aussi pigoul. Celui qui en consomme est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Nous constatons que Rabbi Eliezer pense que la viande des taureaux qui est interdite à la consommation est considérée comme étant une partie du sacrifice qui se mange avec difficulté. Mais en ayant eu l'intention de consommer ces parties mangeables difficilement en dehors du moment ou du lieu prévu par la Torah pour le faire, le sacrifice n'est pas invalidé, il n'a pas le statut de pigoul. La Gemara dit, Lema Mesayale, peut-être que nous dirons que la Braïta qui suit est une preuve pour l'opinion de Rabbi Lazar. La Braïta dit comme suit, Veshavim, et ils sont d'accord, Rabbi Shimon et les Chachamim, qui étaient en discussion concernant les taureaux que nous avons mentionnés qui sont destinés à être brûlés en dehors de la ville de Yerushalayim. Leur discussion est à savoir, est-ce que le pigoul prend effet par une intention invalidante sur un sacrifice dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, comme ces taureaux? Selon Rabbi Shimon, le pigoul ne prend pas effet, tandis que selon Chachamim, le pigoul peut prendre effet. Alors, ils sont tous les deux d'accord, même les Chachamim seront d'accord, chez Im Chishev Be'achilat Parim, s'il a eu une intention invalidante concernant la consommation de la viande de ces taureaux ou besrefatan, ou bien concernant le fait qu'ils soient brûlés en dehors du moment ou du lieu prévu par la Torah pour le faire, lo asa velo klum, il n'a rien fait, ses intentions n'invalident pas le sacrifice, puisque finalement ils ne sont pas destinés à être consommés, et l'intention que cette viande soit brûlée en dehors du lieu ou du moment prévu par la Torah pour le faire n'est pas une intention invalidante, car comme nous l'avons vu à la fin du chapitre précédent, une intention invalide le sacrifice seulement soit si c'est une intention qu'une partie du sacrifice serait consommée, soit en employant le langage de Haktara qui veut dire offert à Hachem, et le fait d'être brûlé ne rentre dans aucune de ces catégories. En Maïlav, n'est-ce pas que c'est cela que la Breita veut dire Hachishev Be'emurim? Mais s'il a une intention concernant les graisses de ses sacrifices, donc de ses taureaux destinés à être brûlés, selon les Chachamim, Nitpagluparim, les taureaux, donc la viande du taureau, aura aussi le statut de pigoule. Celui qui en consomme sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur, bien que cette partie n'est pas réellement destinée à être mangée. L'Agma répond, lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Braïta.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Lamedhe Amudbet, mais plutôt c'est cela que la Breta a voulu dire. Hachishev Be'emurim, s'il a eu une intention invalidante concernant les graisses du sacrifice destiné à être offert sur l'autel, donc qu'il soit offert en dehors du lieu ou du moment prévu par la Torah pour le faire, Nitpaglu Emurin Atzmam, les graisses elles-mêmes auront le statut du pigoul. Donc celui qui consomme les reins ou le diaphragme qui ne sont pas interdits de toute façon par la Torah sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Car en fait, ne reçoit le statut de pigoule que les parties du sacrifice qui eux-mêmes peuvent causer ce statut de pigoule par une intention invalidante les concernant. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah dans Masechet Me'ila Daftet. Parim hanisrafim ou seirim hanisrafim, des taureaux destinés à être brûlés et des boucs destinés à être brûlés, ce sont des sacrifices dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire et ne sont pas destinés à être consommés, mais plutôt à être brûlés en dehors de Yerushalayim. Mo'alin bahem mishéouk de chou, une personne se rend coupable de l'interdiction de Me'ila s'il en a profité, et ce, à partir du moment où ces sacrifices ont été sanctifiés, donc ces animaux ont été désignés comme sacrifices. Nishratu, à partir du moment où ils ont été sacrifiés, Hurcheru lipassel betvulium, ils sont devenus aptes à être invalidés s'ils sont touchés par une personne dans un état d'impureté légère le jour où elle s'est purifiée dans un bain rituel, ou même Khusar Kippurim, ou bien s'ils ont été touchés par une personne qui doit compléter sa purification par l'offrande d'un sacrifice, ou Belina, ou bien s'ils ont passé la nuit. Maïlav, n'est-ce pas que c'est cela que la Mishnah veut dire, Linat Bassar, que si la viande de ces sacrifices est restée toute la nuit sans être brûlée, cette viande, donc ce sacrifice, est invalidée, ou Shmamina, et nous pouvons déduire de là, car c'est ainsi que la Gemara comprend Migo de Pasla Belina, du fait que le passage de la nuit invalide la viande de ce sacrifice, passe là-bas Marshava, une intention invalidante peut invalider aussi la viande de ce sacrifice. Car finalement, l'intention invalidante est justement que la nuit passe sur le sacrifice. Alors il est vrai que, comme nous l'avons expliqué précédemment, une intention invalidante concernant la viande de ces sacrifices n'invalidera pas le sacrifice, car pour que l'intention invalidante invalide le sacrifice, il faut qu'il s'agisse d'une partie du sacrifice destinée à être consommée, mais tout au moins, nous pourrons conclure qu'une intention invalidante concernant les parties destinées à être offertes sur l'autel invalideront tout le sacrifice et donc le statut de pigoule prendra effet même sur la viande du sacrifice. L'Agma répond, lo, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais plutôt, celle-ci parle de linat emurim, le passage de la nuit sur les graisses de ce sacrifice destiné à être offert sur l'autel les invalidera. Alors la Gemara demande, Hami de Katane Sefa, mais pourtant du fait qu'il est enseigné à la fin de la Mishnah, Kulan Mo'alin Bahem, tous ces sacrifices dont nous avons parlé plus haut, une personne qui en profite se rend coupable de l'interdiction de Meila, Al Bet Hadeshen, même lorsque cette viande du sacrifice se trouve à l'endroit où on déverse les cendres des sacrifices, c'est à cet endroit que le sacrifice est brûlé, Hacheyuta Chabassar, et ce, jusqu'à ce que la viande se décompose par le feu. Donc nous voyons bien que la Mishnah parle de la viande du sacrifice, Miklal Derecha Linat Bassar. Nous pouvons donc déduire qu'au début de la Mishnah, on parlait aussi du passage de la nuit sur la viande et non pas sur les graisses. La Gemara répond, Mideria, est-ce une preuve? Ha Kedeita, cette partie de la Mishnah s'interprète comme il convient. Veha Kedeita, et l'autre partie de la Mishnah s'interprète comme il convient. Recha, le début de la Mishnah et Mourim parle des graisses du sacrifice. Vesefa, tandis que la fin de la Mishnah, Bassar, parle de la viande du sacrifice. Donc finalement, nous n'avons pas de preuve d'ici non plus pour l'opinion de Rabbi Lazar. Motiv Rabba. Rabba a opposé à Rabbi Lazar la braïta suivante. La braïta dit comme suit. Ve'elu she'en mefaglim. Voici les parties d'un sacrifice qui ne causent pas le statut de pigoul. Si le Kohen a une intention invalidante concernant ces parties, donc qu'il soit consommé ou offert en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, ve'en mitpaglim, et ces mêmes parties du sacrifice ne reçoivent pas le statut de pigoul, c'est-à-dire même lorsque le sacrifice est devenu pigoul, ces parties ne sont pas concernées par cette interdiction. Celui qui en consommera ne sera pas condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Alors, tsemer shebrachek vasim, la laine qui se trouve sur la tête des moutons, ve'se'ar shebezekan teashim, et les poils de la barbe des boucs. La Braïta cite spécialement cette laine ou ces poils, car la tête des sacrifices n'est pas dépecée. Par conséquent, une intention concernant la peau de la tête du sacrifice, qu'elle serait offerte en dehors du lieu ou du moment prévu par la Torah pour le faire, invalide le sacrifice. C'est pourquoi la Braïta précise que si cette intention est concernant la laine sur la tête du mouton ou les poils de la barbe des boucs, cette intention n'invalidera pas le sacrifice. Vehaor et la peau du sacrifice, Vehaorotev et le jus de la cuisson, Vehakipa et les petits morceaux de viande et d'épices qui se trouvent au fond de la casserole, Vehaalal et le tendon du cou, Vehamura et le jabot des oiseaux offerts comme sacrifice, Vehaatsamot et les os, Vehagidin et les nerfs, Vehakarnaim et les cornes, Vehatlafaim et les sabots, Vehashlil et le fœtus, Vehashilia et le placenta, Ve Chalav Hamukdashim et le lait qui se trouve dans les mamelles des sacrifices femelles, ou Betset Orim et les œufs qui se trouvent dans les tourterelles offerts comme sacrifice, Kulam Lome Faglim, toutes ces parties que nous avons mentionnées ne causent pas le statut de pigoul, comme nous l'avons expliqué, Ve Lomit Faglim et aussi ne reçoivent pas le statut de pigoul. Ve En Chayavin Alehem, et une personne qui en consomme ne peut pas se rendre coupable. Mishum pigoul, ni de l'interdiction de consommer du pigoul, notar, ni de l'interdiction de consommer de la viande du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, vetame, et ni de l'interdiction de consommer de la viande du sacrifice devenue impure. Vehama'ale mehen bachutz, et celui qui en offre donc de ses parties sur un autel à l'extérieur du sanctuaire, patour, il est exempté de l'interdiction d'offrir du sacrifice sur un autel à l'extérieur du sanctuaire, car cette interdiction n'existe que pour les parties du sacrifice destinées à être offertes sur l'autel. Alors, my love, n'est-ce pas que c'est cela que la Braïta veut dire? L'homme faglim hazevach, ces parties que nous avons mentionnées ne causent pas le statut de pigoul au sacrifice, donc par une intention invalidante les concernant, velomit paglim mechamat zevach, et eux ne reçoivent pas le statut de pigoul à cause du sacrifice qui lui a été invalidé ou a reçu le statut de pigoul par une intention invalidante. Or, dans cette liste, la Braïta mentionne le jabot et le fœtus, contrairement à l'opinion de Rabbi Lazar. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Braïta, mais plutôt c'est cela qu'elle a voulu dire. L'eau mefaglin est azevach, ces parties ne causent pas le statut de pigoul au sacrifice, comme nous l'avons expliqué, velomit paglim mechamatatsmam, et eux ne reçoivent pas le pigoul par une intention invalidante les concernant. Mais en fait, la Braïta ne parle pas du statut de pigoul causé par une intention concernant le sacrifice lui-même. La Gemara demande, Yahri, si c'est ainsi, ha de katane sefa, ce passage qui est enseigné à la suite de la Braïta, kulan lome faglim velomit paglim, toutes ces parties ne causent pas le statut de pigoul et ne reçoivent pas non plus le statut de pigoul lorsque le sacrifice est devenu pigoul, hatulamali, Pourquoi a-t-on besoin de ce passage? N'est-ce pas que c'est pour préciser que ces parties que nous avons mentionnées dans la Braïta ne reçoivent pas le statut de pigoul, même lorsque le sacrifice lui-même est devenu pigoul? Rabbi Elazar répond, Veli Tamer, et selon toi, qui veut dire que toutes les parties de la Braïta nous enseignent quelque chose. En chayavin alav mishum pigoul. Lorsque la Braïta dit par la suite, et une personne qui en consomme ne peut pas se rendre coupable de l'interdiction de consommer de pigoul, hatul amali. Pourquoi a-t-on besoin à nouveau de cette répétition? Et là, plutôt, c'est cela que la Braïta voulait dire. Aïde de ba'el emitne notar vetame. Puisque la Braïta voulait enseigner que ces parties que nous avons mentionnées ne sont pas concernées par l'interdiction de notar de consommer du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, et non plus par l'interdiction de consommer du sacrifice devenu impur, Tana Pigoul, c'est pour ça que la Braïta ajoutait aussi que ces parties ne sont pas concernées par l'interdiction de consommer du Pigoul, car ces trois interdictions vont toujours ensemble. Hachanami, ici aussi, nous pouvons dire que la deuxième fois que la Braïta enseigne que ces parties du sacrifice ne reçoivent pas le statut de Pigoul, Aïde de Ba'el Emitne Hamale Mehen Bachutz, puisque la Braïta voulait enseigner que celui qui en offre sur un autel à l'extérieur du sanctuaire n'a pas transgressé l'interdiction, Tananami, la Braïta a aussi enseigné Vechulan Lom Efaglim Velom Itpaglim, et toutes ces parties ne causent pas le statut de Pigoul et ne reçoivent pas non plus le statut de Pigoul. Au passage, finalement, on ne peut rien prouver de la Braïta. Cependant, il est vrai que les parties qui ne peuvent pas du tout être mangées ne reçoivent pas le statut de pigoul, comme nous l'avons vu dans notre Mishnah. Mais en ce qui concerne le jabot et le fœtus, il est possible que Rabbi Elazar a raison et ces parties reçoivent le statut de pigoul, car finalement, ils se mangent des fois avec difficulté. Rava Amar Afanana Mitanina, nous avons aussi enseigné cela dans notre Mishnah. Donc, nous pouvons prouver l'enseignement de Rabbi Elazar de notre Mishnah. En effet, la Mishnah dit « Hashochet et Amukdashim, celui qui sacrifie des sacrifices femelles, les chol shlil oshilia, avec l'intention que soit consommé le fœtus ou le placenta bachout à l'extérieur du sanctuaire, l'opigel, le sacrifice n'a pas le statut de pigoul, autrement dit, il n'a pas été invalidé par cette intention. « Behamolek et Atorim, celui qui sacrifie des tourterelles avec son ongle, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, les chol betzehem bachutz, avec l'intention que soient consommés leurs œufs à l'extérieur du sanctuaire, l'opigel, le sacrifice n'est pas devenu pigoul, autrement dit, il n'a pas été invalidé. Vehadar tane, puis la Mishnah enseigne par la suite, chalav hamukdashim, le lait se trouvant dans les mamelles des sacrifices, ou betzeh torim, et les œufs qui se trouvent dans les tourterelles offerts comme sacrifice, en chayav alehen, une personne ne se rend pas coupable en les mangeant, ni shum pigoul, ni de l'interdiction de consommer du sacrifice devenu pigoul, notar, ni de l'interdiction de consommer du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, vetame, ni de l'interdiction de consommer du sacrifice devenu impur. Dans ce passage, la Mishnah ne mentionne que les œufs des tourterelles que nous avons vus plus haut, hachelil veshilia, donc nous pouvons déduire qu'en ce qui concerne le fœtus et le placenta qui ne sont pas mentionnés ici, Khlalav Shmamina, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire de là, Kan, dans la fin de la Mishnah, Mechamat Hazevar, nous parlons d'un cas où le sacrifice est devenu pigoul par une intention concernant la viande du sacrifice, et donc c'est pourquoi le fœtus et le placenta ont reçu le statut de pigoul. Kan Mechamat Hatzman, tandis qu'au début de la Mishnah, on parle d'une intention concernant le fœtus lui-même, qui, puisqu'il n'est pas mangé en général, ne cause pas le statut de pigoul. La Gemara conclut, Shmamina, effectivement, c'est une bonne preuve. Nous noterons cependant, comme le précise le Tosfot, que cette déduction ne concerne pas les interdictions de notar, donc de consommer du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, et aussi l'interdiction de consommer du sacrifice impur, qui, eux, ne concernent pas le fœtus et le placenta. Cependant, ils ont été omis de ce passage de la Mishnah, à cause de l'interdiction de pigoul qui les concerne, comme nous l'avons expliqué. Dans la Gemara dit Nanatam, il est enseigné là-bas dans une Mishnah plus loin, Daf Pedalet Amud Alef, concernant les sacrifices invalidés qui ont été offerts par erreur sur l'autel. Il y en a qui sont acceptés, on n'a pas besoin de les faire descendre, tandis qu'il y en a qui ne sont pas acceptés et il faut les faire descendre. Dans la Mishnah dit Uba les Moumin, et les sacrifices infirmes ne sont pas acceptés sur l'autel. Donc, si on les a fait monter par erreur pour être offerts sur l'autel, il faudra les faire redescendre. Rabbi Akiva Marchir Bebalé Moumim. Rabbi Akiva déclare valable les sacrifices infirmes. Autrement dit, si on les a fait monter par erreur pour être offerts sur l'autel, on n'a pas besoin de les faire redescendre. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lohirshir Rabbi Akiva, Ela Bedukin Shebaïn. Rabbi Akiva ne déclare valable les sacrifices infirmes qui ont été offerts par erreur sur l'autel uniquement lorsqu'il s'agit d'un type d'infirmité comme une espèce de cataracte dans l'œil. Ho'il Ukshérim Beofot, car ce type d'infirmité est valable pour les oiseaux offerts comme sacrifice. En effet, puisque la Torah ne dit pas que les oiseaux offerts comme sacrifice doivent être parfaits, même s'ils sont atteints d'une infirmité, ils sont acceptés. Cependant, s'il leur manque un membre, ils ne peuvent pas être offerts comme sacrifice, car comme l'explique la Gemara dans Maseret Bechorot, nous l'apprenons d'un passouk dans Malachi Aleph, qui dit « L'offriras-tu à ton gouverneur ?» De là, nous apprenons qu'un sacrifice, même s'il n'est pas infirme, mais il est dégoûtant, par exemple s'il est sale, il ne peut pas être offert comme sacrifice. De là, nous apprenons qu'un oiseau auquel il manque un membre, donc qui ne serait pas offert comme cadeau à un gouverneur, ne peut pas être offert comme sacrifice. En tout cas, puisque les infirmités n'invalident pas les oiseaux offerts comme sacrifice, un sacrifice animal atteint de ce type d'infirmité qui n'invalide pas les oiseaux sera accepté sur l'autel s'il y a été offert par erreur. Vehu shekadam hekdesha edmuma, mais cela à la condition que la sanctification de ce sacrifice a précédé son infirmité. Mais s'il était infirme lorsqu'il a été désigné comme sacrifice, la sainteté du sacrifice ne prend pas effet sur cet animal. Par conséquent, même s'il est offert par erreur sur l'autel, il ne sera pas accepté, il faudra le faire redescendre. Nous sautons la parenthèse où Modé Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva est d'accord, Be'olat Nekeva, dans le cas d'une femelle désignée comme Korbanola, alors que ce n'est qu'un mâle qui peut être offert comme Korbanola, Dekeman Dekadam Mouma Leg Deshadami, ce cas ressemble au cas où l'infirmité a précédé la sanctification du sacrifice. Autrement dit, lorsqu'une femelle a été désignée comme Korbanola, elle n'a pas la sainteté du sacrifice. Par conséquent, si on l'a offert sur l'autel par erreur, il faudra la faire redescendre. Métiv Rabbi Zera, Rabbi Zera a opposé à Rabbi Yochanan la braïta que nous avons vue plus haut. La braïta dit « Hama'ale mehen bachutz » celui qui fait monter sur un autel à l'extérieur du sanctuaire une des parties d'un animal, d'un sacrifice que nous avons cité dans la braïta, patour, il est exempté, donc il n'a pas transgressé l'interdiction d'offrir une partie du sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Rappelons-le, dans cette liste, la braïta mentionne le fœtus. Nous pouvons donc déduire « ha me'iman » mais s'il a offert une partie de leur mère, donc de la mère du fœtus, sur un autel à l'extérieur du sanctuaire, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Et comment trouve-t-on un cas où, si on offre une partie de la mère à l'extérieur du sanctuaire, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé cette interdiction? Be'olat Nekeva, forcément il s'agit d'une femelle qui a été désignée comme Korbanola. Car, comme nous l'avons expliqué plus haut, cette interdiction n'existe que pour une partie d'un sacrifice destiné à être offerte sur l'autel. Alors, Yamar Bishlama, on comprend bien ce passage de la Braïta si tu dis que Kassava Rabbi Akiva pense Olat Nekeva Imalta Lotered, une femelle désignée comme Korbanola qu'on a fait monter par erreur sur l'autel, on n'a pas besoin de la faire redescendre. Donc, cette femelle aurait pu être acceptée sur l'autel. Hamane, quel est l'auteur de cette Braïta? Rabbi Akiva hi, c'est Rabbi Akiva. On dirait donc, selon lui, que si on offre une partie de la mère de ce fœtus, donc cette femelle qui avait été désignée comme Korbanola à l'extérieur du sanctuaire, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Et là, Iamart, mais si tu dis Imalta Tered, que même Rabbi Akiva pense que si on a fait monter cette femelle désignée comme Korbanola par erreur sur l'autel, il faudra la faire redescendre. Hamane, quel est l'auteur de cette braïta? Il n'a pas transgressé d'interdiction en faisant monter une partie de la mer sur l'autel à l'extérieur du sanctuaire. L'agma répond, Emma, il faut comprendre ainsi la braïta. Hama'ale mehen bachutz patur, celui qui fait monter une partie du sacrifice qu'on a cité dans la braïta, et ce à l'extérieur du sanctuaire, il est exempté, il n'a pas transgressé l'interdiction, car il n'aurait pas pu être offert sur l'autel. Ha me'imure iman, mais s'il avait offert une partie des graisses de leur mère, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, car les graisses de la mère, même s'il s'agit d'un autre sacrifice, auraient dû être offertes sur l'autel. La Gemara demande, Veha mehen katane. Pourtant, la Braïta dit clairement, s'il offre une partie de ceci, donc de ce qu'on a cité dans la Braïta, donc en fait, lorsqu'on parle du fœtus, on parlerait même de la viande de ce fœtus, Ve'iman dumyadidhu. Et lorsqu'on applique la déduction concernant la mère de ce fœtus, le cas où on applique cette déduction doit ressembler au cas présenté par la Braïta. Donc si la Braïta parle de la viande du fœtus, la déduction devrait s'appliquer à la viande de la mère. Et donc nous pouvons conclure que si une personne offre de la viande d'une femelle qui avait été offerte comme corbanola à l'extérieur du sanctuaire, a transgressé l'interdiction, contrairement à ce que nous pouvons déduire des paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara répond, et là, Emma, plutôt, c'est ainsi qu'il faut dire pour comprendre la Braïta. Hama'ale me emurehen bachutz, celui qui fait monter des graisses de ce qu'on a cité dans la Braïta, donc des graisses du fœtus sur un autel à l'extérieur du sanctuaire, patour, il est exempté, il n'a pas transgressé l'interdiction d'offrir une partie d'un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Et donc, nous appliquons la déduction, ha me emure iman, mais s'il avait offert une partie des graisses de leur mère, donc il peut s'agir de n'importe quel autre sacrifice qui devait être offert sur l'autel, chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim d'Af Lamed He. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim d'Af Lamed Vav. Nous commençons d'Af Lamed He Amud Bet à la Mishnah, à la troisième ligne du bas de la page. La Mishnah dit Shachato almenat lehaniach et damo o emurav lemachar, celui qui sacrifie un sacrifice avec l'intention de laisser son sang ou ses graisses au lendemain, mais il n'a pas eu clairement l'intention de les offrir le lendemain, ou le hotzian nachutz, ou bien de les faire sortir à l'extérieur du sanctuaire, sans avoir l'intention de les offrir ou de les consommer, Rabbi Yehuda Possel déclare ce sacrifice invalidé, tandis que les chachamim le déclarent valable, car ce n'est pas une intention invalidante. Almenat litnan al gabe hakevesh, s'il a eu l'intention, lorsqu'il a sacrifié ce sacrifice, d'asperger son sang sur la rampe d'accès à l'autel chez l'Okenegedayosod ou bien dans un des coins de l'autel où il n'y a pas de base, donc c'est le côté est et sud, Veliten et Anitanin le Malan le Mata, ou bien d'asperger le sang qui était destiné à être aspergé dans la moitié supérieure de l'autel, dans la moitié inférieure, Vetanitanim le Mata le Malan, ou bien d'asperger du sang qui était destiné à être aspergé dans la moitié inférieure de l'autel, dans la moitié supérieure, Vetanitanin, ou bien le sang qui était destiné à être aspergé.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.